Le fabuleux destin, il faut se dire que ça n'a jamais été un projet. Ça a été une aventure qui nous est tombée dessus, à quelques-uns. On est, enfin, une association qui était une maison d'édition, sans sucre ajouté. C'est l'ancienne patronne de ce bistrot qui voulait s'en débarrasser, qui nous a proposé de le reprendre, puisqu'on y avait organisé plusieurs soirées de lecture, de spectacles musicaux. Et on a été tentés. Et quand on a ouvert en septembre 2012, on avait constitué un premier trimestre de programmation. Et nous ne savions pas du tout où nous allions. C'était très réjouissant. Parce qu'il n'y a pas de réjouissance sans risque. Voilà. Et donc, le fabuleux destin reste une expérience, reste une aventure. C'est surtout fonction d'abord des gens qui se sont regroupés autour de cette aventure, donc d'autres associations, des individus. Ça a donné une teinte particulière à ce lieu, qui est à la fois lieu d'exposition, de concerts, de projection de films, de soirées débats, de contes, de lecture publique, et qui peu à peu est devenu aussi un lieu de création, puisqu'il y a des groupes musicaux, comme ceux qui vont passer demain, les Oiseaux de Passage, qui se sont constitués ici. Voilà. Comme on n'ouvre que les jeudis, vendredis, samedis, eh bien, il reste quelques jours dans la semaine pour occuper ce lieu à des activités à la fois amusantes et intelligentes, et surtout artistiques. Et puis c'est aussi, bien entendu, c'est aussi un lieu politique. C'est-à-dire, c'est, alors, quand on parle lieu politique, certains nous taxent de foyer d'anarchistes. Bien sûr, comme dirait l'autre, il y en a. Mais c'est surtout un lieu fraternel, c'est-à-dire un lieu où la parole est libre, où le débat peut être ouvert à chaque instant. Et ce qui est assez réjouissant, c'est qu'on retrouve ici des gens qui, dans la vie, ne seraient absolument pas d'accord, et trouvent ici un lieu de débat et l'occasion de partager un verre ensemble. C'est aussi pour ça que c'est très important, même si le fabuleux destin est devenu plutôt un lieu culturel, que ce soit et que ça reste un bar. Parce qu'il n'y a pas que la musique qui adoucit les mœurs, boire un coup ensemble aussi.
Est-ce que vous avez gardé le côté édition de l'association ? Est-ce que vous continuez d'éditer des livres ?
Alors, Sans Sucre Ajouté a géré administrativement ce lieu jusqu'en mars 2013. Depuis, la maison d'édition s'est dégagée parce que, bon, on ne peut pas tout faire, quoi. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Les Amis du Fabuleux Destin et qui regroupe à la fois les individus qui y sont engagés et les associations qui y sont engagées aussi. Donc, la maison d'édition continue sa vie éditoriale et le Fabuleux Destin mène sa vie propre.
Vous l'avez rappelé, le Fabuleux Destin n'est pas qu'un lieu culturel, c'est aussi avant tout un café, mais un café associatif. Qu'est-ce qui diffère un café associatif d'un café classique ?
Alors d'abord, on ne peut pas dire que ce soit avant tout un café. C'est important que ça le soit, mais ce n'est pas avant tout un café parce qu'on est dans un lieu écarté d'Aubusson, il y a une pente à monter, au bout de la pente on est bien essoufflé, et il n'y a aucune raison que les gens viennent boire un coup ici alors qu'ils ont plein de bistrots à leur disposition en centre-ville. Nous n'attirons le client ici que parce que nous attirons le spectateur. Mais c'est un bar associatif. Alors qu'est-ce qu'un bar associatif ? C'est un bar à licence 2, c'est-à-dire licence 2 permanente, qui permet de vendre du vin, de la bière, enfin tous les alcools en gros en dessous de 15 degrés. Mais c'est surtout un bar qui ici est tenu par des bénévoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de salariés au Fabuleux Destin. Et donc on partage à peu près toutes les tâches, celles qui exigent un bistrot, plus celles qu'on s'est données à nous-mêmes. Donc celle qui exige un bistrot, ben c'est la gestion des stocks, c'est la comptabilité, c'est tenir le bar, c'est faire le ménage, c'est tout ça. Comme on a une programmation, eh bien il faut une équipe de programmation qui donc travaille à ça tous les trimestres. Et puis chaque semaine, un ou une bénévole du Fabuleux Destin fait une soupe et cette soupe est vendue à prix libre. Nous ne sommes pas que des bénévoles, nous sommes aussi des mécènes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'équipe qui anime actuellement le Fabuleux Destin ? Combien de bénévoles, pour quelle charge de travail ?
Alors, si on se mettait à estimer la charge de travail, je crois qu'on ne ferait rien. Donc, c'est comme dans toute équipe, il y a des gens qui sont plus ou moins engagés. Donc, l'engagement principal tourne autour d'un noyau de 6-7 personnes. Pour le reste, on doit être une quinzaine de bénévoles. Mais pour voir le maximum des têtes de bénévoles du Fabuleux Destin, je vous conseille de venir les 8 et 9 avril puisque une grande partie des bénévoles du Fabuleux Destin et quelques amis du Fabuleux Destin montent un spectacle, c'est-à-dire deux poèmes joués et une pièce de Prévert. C'est notre seconde, en réalité notre troisième, d'ailleurs la première on ne l'avait pas nommée comme ça, c'est notre troisième fabuloserie. Alors on appelle les fabuloseries ce prurite soudain de création qui s'empare des bénévoles du Fabuleux Destin, parce que c'est bien beau d'accueillir des spectacles, mais encore faut-il pouvoir créer soi-même. Et ça rassemble l'équipe. Donc les 8-9 avril, sur cette petite scène, il y aura 14 acteurs, plus un pianiste.
Avant de parler un petit peu plus en détail des artistes, des expositions, de ce qui se passe au niveau culturel au Fabuleux Destin, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du nom ?
Oh ben alors, l'origine du nom, on n'y est pour rien. Le bistrot s'appelait comme ça, on a beaucoup réfléchi à lui donner un nom, et puis comme il était connu sous ce nom à Aubusson, on l'a gardé. Il va de soi que l'inspiration de l'ancienne patronne du bistrot, c'était le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Mais c'est vrai que moi, j'y ai même pas pensé. Et bien des gens nous disent, surtout les artistes qui viennent de loin et qui passent ici, nous disent qu'ils ont pris tellement de plaisir à y être, et puis il y a aussi une spécificité du lieu, c'est que pendant les concerts, par exemple, on ne sert pas. On ne sert pas de boisson pendant les concerts. Donc il y a une écoute très, très importante. Et le jeu de mots arrive facilement aux lèvres des artistes qui passent ici. On aura connu ce soir un fabuleux destin. Voilà. Donc c'est très bien que ça s'appelle comme ça.
On va maintenant parler de la programmation. Vous recevez des artistes, des expositions, j'imagine. Comment vous choisissez les thèmes, les artistes qui se produisent ici ?
Ben, au départ... Moi, je suis dans la vie metteur en scène et j'ai beaucoup travaillé dans le Nord et en Alsace avec des musiciens, dans le cadre d'un CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants, donc ça dépend des universités. Et donc, bon, ne sachant que faire, on a d'abord plongé dans le vivier artistique qu'on pouvait trouver autour de nous. Donc il se trouvait que Patrick et Marie-Ange, qui sont entre autres des rédacteurs de Creuse Citron et qui ont mis en place le festival de films Bobine Rebelle, avaient de quoi en effet assurer ici des projections débats autour de films documentaires. Moi, j'ai essayé de faire venir un maximum de musiciens ou de compagnies de théâtre avec lesquelles j'avais travaillé dans le Nord dans un premier temps. Et très vite, mais se sont présentés à nous des artistes de la Creuse et du Limousin, qu'on ne connaissait pas au départ, et qui se sont manifestés. Et puis, progressivement, c'est surtout les musiciens. Chez les gens de théâtre, c'est un peu différent, chez les conteurs aussi. Mais chez les musiciens, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et de fait, on est maintenant de plus en plus sollicités. Donc on peut dire que les artistes qui viennent chez nous... je ne sais pas si je l'avais pas écrit dans un édito une fois, ils viennent de Rennes, de Lausanne, de Toulouse, de Lille, de Bruxelles, de Londres. On a quand même pas mal d'artistes qui viennent de loin et qui nous sollicitent de plus en plus parce que quand ils font une tournée dans le coin, ils ne manquent pas de passer au Fabuleux Destin.
Et est-ce qu'il y a des thèmes que vous privilégiez au Fabuleux Destin, des thèmes ou des idées ? Vous parliez du Fabuleux Destin comme étant aussi un lieu politique ?
Non, je pense que ce qui fait le larron, c'est l'occasion, pas le thème. Parce que dans le thème, on exprime une certaine volonté politique et donc nécessairement, pour moi, une réduction du politique. Ce qui est intéressant ici, je vais donner un exemple simple. On a eu ici une soirée qui nous avait été proposée par quelqu'un d'extérieur sur la sémantique de l'islam. Bon, en janvier, après ce qui s'est passé, c'était intéressant de comprendre que l'islam n'est pas un, qu'il est multiple. Et que lorsque nous employons des mots comme djihadiste, salafiste et autres, nous ne savons pas toujours ce que nous exprimons avec exactitude. Donc la personne, Jean-Baptiste, qui est venu nous présenter cette causerie d'ailleurs, plus qu'une conférence, c'est comme ça qu'il nous l'a présenté, est un ancien militaire qui a été 27 ans à l'armée, qui a fait l'Afghanistan, la Bosnie, et qui a pour discours de dire « moi j'arrive en envahisseur ». Et donc, la première chose que je fais, c'est que je m'essuie les pieds sur le tapis. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre chez qui je suis arrivé. Et je dialogue. Et c'était très drôle parce que, autour du thème de la sémantique de l'islam, il y avait ici un certain nombre d'anarchistes révolutionnaires, ni Dieu ni maître. Et le sentant, il s'est tout de suite présenté avec beaucoup de sincérité en disant « moi, je suis un catholique traditionnaliste ». Et en disant « voilà, c'est ici que j'ai envie de faire cette conférence ». Et c'était très bien parce que la différence des opinions... La différence radicale des opinions faisait que le débat a eu lieu, véritablement. Il n'y a pas eu de pugilat. Bien au contraire, il y avait aussi trois musulmans soufis qui étaient là et qui ont participé pleinement à ce débat-là. Donc ça, c'est l'esprit du lieu. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on entend par politique ? La possibilité d'avancer dans la compréhension du monde et donc dans un engagement possible dans ce monde-ci. Mais quel est-il ? Combien de gens s'engagent à toute vitesse sans avoir simplement regardé ce qui se passe autour d'eux ? C'est de la même façon qu'on a reçu ici, alors ils n'aiment pas qu'on les appelle des zadistes, et je les comprends, disons des habitants de Notre-Dame-des-Landes, aussi pour un débat, pour comprendre ce qui se passe là. Et ne pas en discourir sans savoir exactement de quoi on cause.
Le Fabuleux Destin est animé par une équipe de bénévoles. Est-ce que vous demandez aux artistes qui se produisent ici, est-ce que vous rémunérez les artistes qui se produisent ici ? Est-ce que vous leur demandez de faire un effort si jamais ils demandent une contrepartie financière ?
Alors, nous ne salarions personne, donc nous ne salarions pas les artistes. Alors ça, le contrat est extrêmement clair avec eux. Chaque fois qu'on a affaire à des gens qui nous appellent en demandant à passer ici, qui ne nous connaissent pas encore, c'est de leur dire, écoutez, voilà, on a un café associatif tenu par des bénévoles, non subventionné, et nous ne tenons pas à demander de subvention. Est-ce que vous acceptez d'être payé au chapeau ? Il se trouve que le public ici étant particulièrement attentif, fait son miel de ce qui s'y passe, et généralement les chapeaux sont généreux, beaucoup plus généreux qu'ailleurs, j'ai pu le constater. Et puis l'écoute d'un public, c'est quand même une chose très importante. Voilà, moi je suis artiste, je pose la question, c'est quoi le métier ? Le métier, est-ce que c'est rafler un cachet à chaque fois qu'on passe quelque part, ou c'est aussi d'être véritablement écouté pour ce que l'on donne ? Ce que trouvent les artistes ici, c'est cette écoute-là, et la plupart du temps, même payé au chapeau, ils s'arrangent pour revenir. Donc voilà, peu de rapports administratifs avec les artistes, quasiment inexistants, mais un véritable rapport d'hospitalité, d'accueil. Et sachant aussi que les gens ayant réellement écouté, il est assez fréquent que, bon, ici, tout le monde est au premier rang, hein, la scène est dans la salle, le bar est à côté. Donc, une fois que les artistes ont fini leur concert, ou leur pièce de théâtre, ou leur conte, si c'est des conteurs, ben, ils se retrouvent au bar avec les gens qui leur posent des questions, qui parfois leur renvoient des choses. Et jusqu'à présent, à une ou deux exceptions près, on a eu très peu d'artistes susceptibles pour nous reprocher qu'on leur ait pris un peu le chou sur ce qu'ils avaient fait. Au contraire, beaucoup nous disent en revenant qu'ils ont eu ici des critiques qui les avaient fait avancer.
Des bénévoles pour animer le lieu, des artistes rémunérés au chapeau. J'imagine que ça ne couvre pas les charges courantes comme l'électricité, la location du bâtiment. Comment le café, comment le Fabuleux Destin vit-il financièrement ? Avec quels revenus ? Et est-ce qu'il y a eu un gros investissement au départ à la création du lieu ?
Alors, il y a eu un investissement au départ qui n'est pas énorme, hein, qui était aux alentours de 2500 euros pour tout remettre à neuf, voilà, exprimer un peu notre fantaisie de coloriste et de décorateur, meubler un peu le lieu. Voilà, 2500 euros, c'est rien, quoi. Ces 2500 euros ont été depuis en partie remboursés aux éditions Sans Sucre Ajouté, qui ont investi et qui ont laissé généreusement à peu près la moitié de la somme dans le Fabuleux Destin. Si on arrive à couvrir la plupart du temps, on n'a eu que deux alertes qui étaient quand même importantes. Une fin juillet, et on a eu des dons qui nous sont venus en août. En août, on a eu énormément de monde qui est venu au Fabuleux Destin. Donc on a eu des dons au mois d'août qui nous sont venus essentiellement des Parisiens, des Anglais, des Américains. Et quelques Américains qui sont passés, qui nous ont dit un lieu comme ça, il ne faut pas que ça disparaisse. Donc, on fait appel aux dons quand vraiment ça va mal. Ça a été le cas aussi l'année précédente, quand les Amis du Fabuleux Destin ont repris à leur compte, quand l'association a repris à son compte le bistrot. Il fallait assainir les finances et on a eu près de 2000 euros de dons par les gens qui viennent habituellement ici. Nous vivons de ça, des adhésions et essentiellement des spectacles que nous produisons, nous, puisque chacun d'entre nous accepte de le faire bénévolement. Et comme les chapeaux sont souvent importants au cours de ces spectacles, ils sont remis dans l'économie du Fabuleux Destin. Et puis, nous vivons de l'ivresse publique. C'est-à-dire, voilà, des consommateurs. Eh bien, si, ça couvre tout. La plupart du temps, c'est assez miraculeux. Et là, il aura suffi d'un très bon mois de novembre, d'un très bon mois de décembre et d'un bon mois de janvier pour qu'on soit remis à flot. Donc c'est pas si compliqué. Voilà, les gens se disent, mais comment vous faites? Alors bien sûr qu'on compte beaucoup aussi sur l'empathie et la fraternité des artistes qui passent ici et qui acceptent effectivement de passer dans des conditions financières qui sont limites, mais dans des conditions d'accueil qui sont exceptionnelles.
En tant qu'association, vous pourriez faire des demandes de subvention, est-ce que vous le faites?
Non. Non, je crois qu'il faut réfléchir quand même. Moi, je viens d'une région qui a failli passer au Front National. J'ai plein d'amis qui sont subventionnés là-bas, des troupes de théâtre, des théâtres, des compagnies qui sont subventionnées et qui ont quand même eu chaud aux fesses, quoi, en se disant, mais est-ce qu'on va aller quémander une subvention auprès de gens contre lesquels on s'est tout le temps battu? Un jour, la question politique va se poser. Alors je dirais qu'ici, le risque qu'on prend est différent. C'est bien sûr le risque de nous retrouver un peu étranglés financièrement, mais il y a un risque qu'on ne prend pas et qu'on évite bien volonté, c'est celui d'une compromission possible.
Vous avez parlé d'une crise qui s'est réglée grâce à des bons mois de la fin de l'année 2015. Mmh. C'est quoi la situation actuelle du Fabuleux Destin et les perspectives, à la fois en termes financiers, mais aussi en termes culturels?
On ne peut pas faire de... Au Fabuleux Destin, on ne peut pas faire de perspective au-delà d'un trimestre. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne sait jamais si au cours du trimestre suivant, on ne va pas disparaître. Alors on fait tout, bien sûr, pour ne pas disparaître, bien entendu. Mais je ne pense pas qu'on ait ici beaucoup la culture du projet, puisqu'on a celle de l'aventure, c'est pas la même chose. Et voilà, on vit aussi avec ce qui nous advient. Et ce qui nous advient, pour l'instant, est plutôt favorable. Mais la fréquentation du lieu est extrêmement aléatoire. On a beau essayer de comprendre les raisons qui font que tel soir il y a du monde, tel autre soir il n'y en a pas. On a essayé de se dire, bah oui, mais c'est parce que le même soir, il y a ça à la scène nationale, il y a autre chose qui se passe à l'avant-scène, un concert au central, un bal à Faux-la-Montagne, donc on n'a personne. C'est complètement faux. Il est arrivé certains soirs où il y avait toutes ces choses et on avait du monde, et d'autres soirs où il n'y avait rien et on n'avait personne. Donc on a beau chercher dans tous les sens, on ne peut pas comprendre exactement ce qui se passe. Mais en même temps, que dire? Si on se place du côté de la culture ne vit pas de concurrence, elle vit d'émulation. Et après tout, tout lieu appartient, étant public, appartient à son public. Et les gens font ce qu'ils veulent, ils viennent ou ils ne viennent pas. Nous avons des idées, sans nous plaindre, d'accepter cette part aléatoire des choses et de se dire, ben voilà, ce soir il y a 10, 15 personnes, le lendemain il y en a eu 80. Alors ce qui est très chiant, effectivement, c'est que lorsqu'on s'occupe de programmation, qu'on reçoit des artistes et qu'il y a 10 ou 15 personnes à la salle, moi je suis toujours très embarrassé. Mais jusqu'à présent, à part une exception, c'est quand même considérable, on existe depuis 3 ans et on a à peu près 150 manifestations par an. Donc, à part une exception, jamais je n'ai vu un artiste, même avec 10 personnes dans la salle, repartir déçu. C'est-à-dire toujours grâce à cette écoute très particulière qui fait que, eh ben que si le spectacle est bon, même s'il y a 10 personnes dans la salle, il y a une espèce de ferveur entre... C'est arrivé avec un spectacle de danse qu'on a accueilli la semaine dernière, on était 11 dans la salle, ils sont sortis ravis. Ravi parce qu'après, ce que les gens ont à leur dire, c'est pas des banalités, quoi. Voilà. Et ils ressortent avec quelque chose. Et en plus, ils se sont fait un bon chapeau parce que quand il y a 10 personnes dans la salle, les gens sont tellement emmerdés qu'ils ont tendance à mettre beaucoup plus dans le chapeau que ce qu'on met d'habitude.
Vous avez parlé de l'ivresse publique. On trouve bien d'autres choses à boire au Fabuleux Destin. On trouve, entre autres, une liste de tisanes peu communes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette liste de tisanes et peut-être cette future tisane du Fabuleux Destin?
Ah ben on l'attend toujours, la future tisane du Fabuleux Destin, parce que notre tisanier Thierry Thévenin est tatillon. Donc il essaie de nous concocter depuis un peu plus d'un an maintenant une tisane qui ne nous arrive toujours pas parce qu'il en est insatisfait. Ben, ça nous arrivera bien un jour. Bon, cela dit, oui, Thierry Thévenin est un spécialiste de... Il a d'abord été un spécialiste de la flore locale de Creuse. Il est un passionné de la flore. C'est un homme savant, c'est aussi un homme qui cultive son jardin, donc ça c'est son centre de vie, même s'il fait des conférences partout dans le monde. Et on a de la chance que ce jardin ne soit pas si éloigné, puisqu'il est du côté de Méréchal. Et voilà, il produit d'excellentes tisanes, qu'il appelle des thés d'ailleurs, le thé du montagnard, le thé du matin, des tisanes toniques, le thé sérénité. Ça sert beaucoup quand les artistes viennent ici, qu'ils ont le trac, ils nous demandent un thé sérénité. À mon avis, il y a de l'effet placebo là-dedans, mais ça marche quand même. Et voilà, puis on est très heureux donc de diffuser ici des produits de qualité, notamment des vins qui sont dans le rapport qualité-prix bien meilleurs que ceux qu'on en a pu par des bistrots, et puis quelques bières locales et quelques bières belges, car certains d'entre nous viennent de là-haut.
On a bien compris, vous avez bien expliqué que le fabuleux destin, c'était une aventure de tous les jours, en tout cas de tous les trimestres. Est-ce que cette aventure aujourd'hui ressemble à celle que vous imaginiez en vous lançant dans le projet il y a quelques années?
Je ne sais pas si on avait imaginé grand-chose. On s'était dit, on va tenir le premier trimestre, on va dire, on va tenir 3 mois, puis peut-être qu'après on va s'enfuir. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que, avec ténacité, je pense qu'on a tous désiré, avec ténacité, créer ici ce lieu d'écoute, ce lieu fraternel, ce lieu d'une grande diversité de programmation et de public. Je crois qu'il y a une chose qui nous faisait tous communément horreur, c'est de sombrer dans l'entre-soi. Alors c'est pas facile, parce qu'on a aussi ici des habitués, bien entendu, comme partout, mais on ne peut pas s'en contenter. Ça, je pense, ça se réalise tout doucement, petit à petit, c'est quelque chose qu'on avait imaginé et qui se réalise. Sur la diversité, oui, sauf que des gens nous ont dit au bout de 6 mois d'activité, avec une telle programmation, encore 6 mois et vous êtes à sec. Et en fait, du point de vue artistique, pas du tout. Pas du tout, ça reste vivant, et ça, on n'avait pas osé l'imaginer. Et donc là, je peux dire que la réalité dépasse complètement l'imagination. Ce qu'on n'avait pas imaginé non plus, c'est la réception qu'on allait nous faire à Aubusson, qui a été absolument désastreuse. Parce que les commerçants, et les bistrotiers surtout, ont vécu notre ouverture dans un esprit de concurrence, ce qui n'a strictement rien à voir, puisqu'on ouvre à l'heure où la plupart des bistrots ferment. Et de toute façon, les gens ne viennent pas ici pour boire un coup, ils ne boivent un coup qu'à l'occasion des spectacles qu'ils viennent y voir ou des débats auxquels ils participent. Donc voilà, c'est quelque chose de complètement différent. Ça nous a étonnés et un peu déçus. Et puis il faut dire ici que, bon, c'est en termes de pourcentage, l'immense majorité des gens qui viennent ici, c'est-à-dire plus de 80%, viennent d'ailleurs qu'Aubusson. Et parfois d'assez loin.
Si c'était possible, si vous pouviez changer quelque chose en claquant des doigts, quel serait votre fabuleux destin idéal?
Passer de 90 mètres carrés à 200 mètres carrés, ça nous suffirait.
Et les prochains temps forts, c'est quoi les prochains spectacles qu'on va pouvoir voir ici? Et les infos pratiques pour vous contacter, pour réserver, on fait comment?
D'abord, on ne réserve pas. Non, ça fait partie de nos mœurs sauvages, là. On ne demande pas de subvention, on ne réserve pas. Il suffit de venir assez tôt et on trouve une place assise. Je pense que l'esprit dans lequel on travaille, c'est quand même. Alors on ne l'a pas exprimé comme ça, mais on sent que c'est là. C'est quand même de responsabiliser le public, quoi, que le public soit un peu responsable. C'est-à-dire que, voilà, après tout, si on a envie de trouver un endroit où s'installer confortablement, autant venir un peu plus tôt que les autres. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de réservation. Je ne connais pas par cœur le numéro de téléphone, mais on pourrait le donner pourriez le donner à l'antenne après. Bon, alors moi, je suis complètement nul sur ce genre de précision. Oui, alors les temps forts, les temps forts, ils sont tous forts, hein. C'est difficile de dire quels sont les temps forts parce qu'il y a une telle diversité et on n'a pas d'axe. On ne travaille pas sur des thèmes, on n'a pas d'axe. Je reprendrai cette phrase de Lautréamont que je cite par ailleurs dans le prochain programme. Beau comme la rencontre inopinée d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table d'opération. Je pense que c'est ce qui advient, c'est aussi cette part de hasard bénéfique qui fait que parfois on a la grande surprise de recevoir ici des artistes qui sont proprement extraordinaires et qui naturellement ne vont jamais ou se produisent très peu dans des grandes salles, des scènes nationales. Et voilà, si on pouvait assurer leur promotion, ce serait bien. Enfin, il faut aussi dire que les gens qui travaillent dans les institutions nous boudent un peu, quoi. C'est un peu dommage. Alors après, je pense que nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est aussi de travailler en réseau avec les autres lieux qui produisent ou qui font tourner des spectacles, bien entendu. Nous, on est tout à fait ouvert à ça. Et ce serait la meilleure façon de promotionner les artistes qui passent ici. On le fait d'ailleurs, hein, avec certains, de temps en temps, quand c'est possible.